Le wokisme, on en parle tout le temps, surtout sur cette chaîne, je vous l'accorde. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps? Parce qu'il est partout. Dans les films, dans les pubs, dans les livres, sur les réseaux, à la télé, à l'école, partout. Mais peut-être plus pour très longtemps, car il semble que les gens normalement constitués n'en peuvent plus et qu'ils commencent à se faire entendre. Cette vidéo, c'est la vidéo de l'espoir. Parce que ça fait du bien l'espoir. La première partie, elle est cadeau. On va se détendre devant une compilation des pires bad buzz woke concernant le divertissement de ces derniers temps et en rigoler car, comme l'a dit Mark Twain, le rire est la meilleure arme que nous ayons. Pfff, c'est fort, putain. On va commencer par Blanche-Neige qui sortira en 2024, le live-action Disney de son bien célèbre dessin animé qui était, pour l'anecdote, le film préféré de Hitler. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'un live action? C'est une adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé. C'est souvent la même histoire, en un tout petit peu plus approfondie et en beaucoup plus woke. Vous l'aurez remarqué, ou pas, mais j'ai dit Blanche-Neige et pas Blanche-Neige et les sept nains comme le titre de l'œuvre originale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nains. Et non, maintenant ce sont des créatures magiques. Commençons donc par la dernière controverse concernant ce film, à savoir donc le remplacement des sept nains par un nain et 6 personnes de taille normale très multiculturelle. Ah, j'aperçois même une femme au loin. On peut déjà voir, grâce à leur costume d'étudiant en art appliqué, que Disney manque cruellement de budget.
Il me reste 1,33€ sur mon compte en banque.
Mais on en parlera dans la troisième partie. Pourquoi changer les 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains en créatures magiques, me demanderez-vous? Eh bien car le comédien Peter Dinklage, connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, avait dénoncé en janvier 2022 la représentation arriérée des nains dans le dessin animé. Je cite, « 7 nains vivent ensemble dans une grotte ». Alors déjà ils habitent pas dans une grotte, mais dans un petit cottage franchement sympathique. Enfin bref. L'acteur continue en disant, « Qu'est-ce que vous faites bordel? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause ?» Si, Peter, tu a empêché cet acteur atteint de nanisme de jouer dans un film qui sortira dans les salles de cinéma du monde entier et qui aurait pu, en plus de lancer leur carrière, améliorer la représentation des nains au cinéma. Bravo.
If a dwarf just dreams of being an actor, and in a Disney film, this role is made for them. So now you're taking these roles of not just one, but 7 little people away? It's so stupid. It's just dumb. You're actually doing worse for the community than better.
Les autres bad buzz concernant ce film sont le fait qu'il n'y ait pas de prince, car pour être féministe en 2023, il ne faut absolument pas tomber amoureuse, mais vouloir devenir forte et indépendante.
It's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that
she's not going to be saved by the prince.
She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be.
C'est à peu près le même message qui est véhiculé dans le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Greta Gerwig qui est aussi la scénariste de Blanche-Neige. Et enfin, la dernière critique à l'encontre de ce film concerne les origines colombiennes de Rachel Zegler, celle qui incarne le rôle de la princesse. Et oui, certains s'attendaient à ce que l'actrice jouant Blanche-Neige ait la peau blanche comme neige. Tutut les rageux. Ce phénomène de race swapping, littéralement échange de race, avait aussi été vivement critiqué lors de la sortie du live action de La Petite Sirène, connue pour sa chevelure rouge et ses yeux bleus. Est-ce que quelqu'un, chez Disney, à penser aux roux, parce que eux aussi, c'est une minorité qu'on a bavé. Et quand on a accusé Disney d'avoir choisi Halle Bailey uniquement pour sa couleur de peau, ils ont démenti en disant que c'était pour sa voix magnifique. Ok, pourquoi pas, après tout, c'est une comédie musicale, hein. À côté de ça, ils ont aussi décidé de ressusciter la mère du prince Eric en l'incarnant par une actrice noire, en expliquant que le prince a été adopté. Bon, je sais pas si c'était nécessaire au scénario, mais on passe l'éponge. Par contre... observons un instant les sœurs d'Ariel, parce que c'est à mourir de rire. Là, si vous êtes indulgent, vous me dites qu'elles ont été adoptées, elles aussi, ou alors que le roi Triton avait un harem multiculturel. Sauf que non, car il est précisé dans le film qu'elles ont toutes la même mère. Voilà, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui prévoient d'avoir un enfant dans les prochaines années pour réussir à leur expliquer le principe de la génétique. Parce que je sens que ça va être compliqué, là.
Ça, c'est ta mère. Ça, c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué.
Et un petit dernier pour la route, la série documentaire Netflix La Reine Cléopâtre affirme sans trop de pression que la reine d'Égypte était noire. Alors, ce n'est pas un débunkage sur les origines de Cléopâtre, mais les probabilités pour qu'elle soit noire sont quand même plutôt faibles. Hein. A priori, elle avait quand même des traits plutôt caucasiens. Si ça vous intéresse, j'ai mis des liens d'articles et de vidéos en description. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas plu aux Égyptiens. Une pétition a été créée sur change.org et Mahmoud Al-Samari... Il y l'avocat égyptien, a intenté une action en justice contre Netflix. Dans une interview, il évoque vouloir préserver l'identité nationale et culturelle égyptienne et consolider l'esprit d'appartenance à la patrie. Quel facho! Selon lui et nombre de ses concitoyens, cette représentation serait une falsification historique à la portée politique et serait hautement offensive pour le peuple égyptien. Adèle James, l'actrice incarnant Cléopâtre, a répondu en disant que les Égyptiens étaient racistes. Voilà voilà! Pourquoi les entreprises telles que Disney et Netflix exploitent-elles autant le wokisme si c'est pour recevoir autant de critiques après coup? Et pourquoi le wokisme reçoit-il autant de critiques en premier lieu? Être woke, c'est être éveillé, être conscient des problèmes de justice sociale et de racisme. Le terme fait son apparition dans les années 60 et est alors uniquement utilisé par la communauté afro-américaine. En 2014, avec le mouvement Black Lives Matter, la notion de woke gagne en popularité, puis se développe en dénonçant de manière commune les autres discriminations sociales, notamment celles visant les personnes LGBT, les femmes, les immigrés et toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs hétérosexuels cisgenres. Aujourd'hui, le terme est davantage utilisé par ses détracteurs, nous. Mais pourquoi le wokisme est-il autant critiqué? Eh bien, pour commencer, les woke ont ce sentiment d'être moralement meilleur que l'entièreté de la société.
Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur.
Ils voient le monde à travers le prisme de la discrimination et ont une vision très manichéenne du genre humain. Ensuite, ils pensent qu'une dépression nerveuse correspond à du militantisme. Et enfin, de la woke culture est née la cancel culture, en français la culture de l'effacement. En gros, dénoncer publiquement et massivement un individu qui sort des normes du politiquement correct dans le but de l'ostraciser et de le mettre au banc de la société. J'avais déjà parlé du cas de J.K. Rowling dans un ancien décryptage, mais cela n'arrive pas qu'aux personnalités, ça arrive aussi aux marques. À chaque faux pas, une armée de social justice warriors vient t'insulter, te menacé de mort et appelé au boycott de ta marque ou de tes œuvres au nom du bien. Je pense notamment à Evian qui avait en 2021 posté un tweet pour inviter à boire de l'eau le premier jour du Ramadan. Ça avait enflammé les réseaux et il s'était senti obligé de s'excuser par la suite. La cancel culture et la peur du boycott est donc la première raison du wokisme omniprésent dans les pubs ou dans les films. La deuxième raison de ce wokisme omniprésent, c'est le score ESG. Si vous êtes dans le commerce ou dans la finance, vous connaissez sûrement, et de plus en plus d'articles et de vidéos sortent à ce sujet, mais on va quand même faire un petit point. Les notations ESG sont utilisées pour évaluer une entreprise en fonction de ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, pour apporter de la transparence aux investisseurs, aux clients et au secteur d'activité dans son ensemble. Comme en général, les grosses boîtes n'ont pas un score dingo au niveau de l'environnemental, elles mettent le paquet dans le domaine social, donc respect des données privées, droits humains, diversité et inclusion, et de gouvernance, donc tout ce qui va être pratique et normes de fonctionnement d'une entreprise. En gros, le score ESG est un score de bonne conduite qui permet d'avoir des investisseurs. On va pas chipoter. Regardons alors si le fait de mettre tout plein de minorités opprimées dans leurs films fonctionne bien pour Netflix et Disney. Et oui, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. C'est bien beau d'avoir un bon score ESG, mais si t'as plus trop de clientèle, c'est pas forcément utile. Revenons au sujet de la vidéo, à savoir la chute libre pour les deux gros calibres du divertissement, Netflix et Disney. Commençons par Disney. Walt Disney est né en 1901 à Chicago. Au sortir de la Première Guerre mondiale, il décide d'entamer une carrière de dessinateur et c'est en 1928 qu'il crée le personnage qui le rendra célèbre dans le monde entier, Mickey Mouse. En 1937, avec la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains, la compagnie explose et devient Disney Studios. Puis, la création de Disney World marquera vraiment le début du Disney que l'on connaît aujourd'hui. À la base, Walt Disney avait pour but de faire rêver les enfants en transmettant des valeurs fortes telles que le courage, l'amour véritable, la bonté et le fait de croire en ses rêves. Bon, ça est la thune, hein. On se comprend. Sauf que vous avez sûrement déjà entendu parler des avertissements ou trigger warning pour les bilingues affichés au début de plusieurs films Disney qui ont pour but d'expliquer que certaines représentations des minorités pourraient choquer et que si elles sont problématiques aujourd'hui, elles l'étaient aussi à l'époque. En effet, la firme a dû faire face aux diverses accusations portées contre son créateur. Walt Disney aurait été raciste, homophobe et proche des nazis.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles.
Le créateur de Disney a en effet eu une attitude complaisante avec les nazis jusqu'en 1941, date à laquelle les États-Unis sont entrés en guerre contre les forces de l'Axe. Par exemple, dans la première version des Trois Petits Cochons, parue en 1933, on voit apparaître le loup sous les traits utilisés alors pour caricaturer les juifs. Chapeau noir et gros nez. Roy Disney, le frère de Walter, a rencontré à Berlin Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, pour la promotion de Blanche-Neige. Bon, il y a eu d'autres épisodes de camaraderie avec les nazis, et Walter Disney a aussi participé à la chasse aux sorcières des communistes, ce qu'on appelle le McCarthyisme, durant la guerre froide. Tout ça pour dire que Disney revient de loin et qu'il a bien fallu que la firme se rachète une image. Sauf qu'ils sont allés beaucoup trop loin et ont apparemment oublié que leur principal client est la famille traditionnelle ou conservatrice. Quand t'emmènes ta fille à Disney World, ce n'est pas pour qu'une fée à moustache la déguise en princesse.
So my name's Nick. I'm one of Fairy Godmother's apprentices. I'm here to shop you around and make all your selections for the day.
Quand tu emmènes tes enfants au cinéma, c'est pour les faire rêver, les divertir et pas pour qu'on leur serve une propagande woke. Du coup, que ce soit avec leur plateforme de streaming Disney+, ou avec les films qu'ils sortent au box-office, la compagnie voit son chiffre d'affaires dégringoler. Selon Valiant Renegade, un analyste financier sur YouTube, la firme aurait perdu 900 millions de dollars en 2022. Le service de streaming Disney+, est lui déficitaire, et en mai 2023, on enregistrait une perte de 4 millions d'abonnés en l'espace de 6 mois. Bon, c'était surtout parce qu'ils avaient perdu les droits de diffusion de l'IPL, l'Indian Premier League. En gros, c'est la Ligue des Champions, mais du cricket. Et vu qu'apparemment les Indiens étaient abonnés à Disney+, pour voir ces matchs et pas pour leur contenu woke, et bah ils se sont désabonnés massivement. Et le coup de grâce financier a été porté par Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui a décidé de supprimer le statut spécial du parc Disney World, car il considère que Disney endoctrine les enfants sur les questions LGBT. Quant à Netflix, le leader du streaming mondial, il a lui été créé en 1997 et était à la base un service de location de films. Il débarque en France en 2014 et connaît son apogée durant la période de confinement. Netflix est connu pour ses contenus ultra woke, hein, il n'y a pas un de ses films ou une de ses séries qui ne contiennent pas un personnage principal issu d'une minorité. Mais depuis l'année dernière, on voit un tournant s'opérer. Au premier trimestre de l'année 2022, Netflix avait perdu 200 000 abonnés, une perte d'abonnés qui arrivait en même temps que la sortie sur la plateforme d'une série japonaise intitulée La grossesse de Monsieur Iyama. À la suite de cette perte d'abonnés et de sa chute historique en bourse, une perte de 40 milliards de dollars en une journée, Elon Musk avait tweeté « Le virus de l'esprit woke a rendu Netflix irregardable ». Et on connaît l'influence qu'a Elon Musk sur la bourse à chaque fois qu'il tweete. Coup dur donc pour Netflix qui enregistre une perte de 1 million d'abonnés au deuxième trimestre de 2022. C'est évident que l'overdose de wokisme n'est pas la seule raison, hein, il y a aussi l'augmentation des prix avec l'inflation, etc. Mais c'est difficile de se dire que ça n'a aucun lien. Surtout quand un mois après le tweet d'Elon Musk, Netflix publie un long mémo sur son site à l'attention de ses employés. Les téléspectateurs décident de ce qui est approprié pour eux au lieu que Netflix censure des artistes ou des voix spécifiques. En fonction de votre rôle, vous devrez peut-être travailler sur des titres que vous considérez comme blessants. Si vous avez du mal à soutenir l'étendue de notre contenu, Netflix n'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous. Ce long mémo avait été posté après la sortie du spectacle de stand-up de Dave Chappelle sur la plateforme qui avait provoqué des manifestations de la part des employés de Netflix car le spectacle avait été considéré comme étant transphobe. Comme le dit le fameux dicton, go woke, get broke. Et quelle meilleure illustration de cette phrase que le giga boycott, plutôt cette année, de la marque de bière Bud aux États-Unis, qui avait décidé de faire un partenariat avec une activiste trans, Dylan Mulvaney. Ça n'avait pas plu aux conservateurs, ils avaient totalement boycotté la marque, qui était carrément devenue introuvable dans certains bars. L'activiste conservateur avait même créé sa propre boisson, ultra-right, la bière 100% non-woke. En près de 8 semaines, la controverse avait coûté 22 milliards d'euros de capitalisation boursière à la compagnie. Voilà, ça n'avait absolument rien à voir avec le divertissement, mais ça redonne le sourire. Quand on y réfléchit bien, ils pourraient faire de bons films même avec une idéologie progressiste. Mais ils sont incapables de trouver une idée originale. Typiquement, avec ses live action, Disney n'invente rien de nouveau et ne fait que reprendre des classiques pour les détruire. That was fun. Sans la nostalgie qui habite ceux qui ont grandi en regardant leurs vieux dessins animés, Disney n'existerait plus. Le problème avec le wokisme, c'est qu'il n'est pas compatible avec la créativité. Il y a un cahier des charges à respecter, des cases à cocher, des gens à ne pas blesser. Critiqué pour son manque de diversité, l'Académie des Oscars a décidé de prendre des mesures pour ne plus jamais revivre la polémique du hashtag OscarSoWhite qui avait explosé en 2016, puis qui avait fait son retour en 2020. À partir de 2024, les longs métrages concourant pour le prix le plus prestigieux d'Hollywood devront répondre à au moins deux des quatre critères suivants, numérotés de A à D. Critère A, mettre à l'affiche au moins un acteur principal issu de minorités ethniques et raciales, que 30% des petits rôles soient incarnés par des personnes de communautés sous-représentées, LGBT, personnes en situation de handicap et rôles féminins, ou que le film aborde comme thème principal les questions relatives à ces minorités. Critère B, avoir au sein de son équipe dirigeante ou des membres des équipes techniques en coulisses des personnes issues de groupes ethniques historiquement défavorisés, femmes, personnes LGBT et handicapées comprises. Critère C, proposer des stages payants ou des apprentissages aux personnes issues de ces minorités. Et enfin, critère D, avoir dans son équipe de distribution et de marketing des personnes issues de ces minorités. Selon le président des Oscars, David Rubin ou David Rubin, ces critères n'ont pas pour but d'exclure des films, mais d'encourager les studios à changer de mentalité. Pardon, j'avais dit que ce serait la vidéo de l'espoir. Un chasse le naturel, il revient au galop. Après bon, tous les réalisateurs n'ont pas vocation à obtenir un Oscar, hein, faut... Faut relativiser. Après là, je parle de cinéma, mais cette pensée unique, on la retrouve aussi dans le domaine de l'édition. Il n'y a qu'à voir avec les Sensitivity Readers. Les lecteurs en sensibilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va relire un manuscrit pour repérer, je cite, la présence de stéréotypes, de représentations biaisées ou même de racisme, et les faire enlever avec pour objectif de n'offenser aucune communauté. Mais il ne se charge pas seulement des livres pas encore publiés, il s'occupe aussi des classiques de la littérature, écrits à une autre époque quand les mœurs étaient différentes, et vont supprimer ou modifier des termes jugés offensants. Ils se sont notamment attaqués aux œuvres de Roald Dahl, par exemple Augustus Gloop dans Charlie et la chocolaterie n'est plus un personnage qualifié de gros, mais il devient immense. Mathilda ne lit plus Rudyard Kipling, supposément raciste, mais Jane Austen. Les Oompa Loompa ne sont plus de petits hommes, mais de petites personnes. Bon, c'est pas encore arrivé en France, hein, mais ça ne saurait tarder. Pour revenir sur les Sensitivity Readers et finir sur une note pas forcément positive, mais un peu marrante, il y a des sites qui regroupent ce corps de métier. Et en fait, plutôt que de mettre leur diplôme ou je ne sais quelle autre information qu'on est censé mettre dans un CV, ils mettent tout ce qui fait d'eux des victimes de la société. Petite sélection. Je suis une personne handicapée, non-binaire, juive et homosexuelle, atteinte de TDAH. Bisexuelle, mexicaine à la peau brun clair, autiste autodiagnostiquée, ainsi que souffrant de SDE, de dépression et d'anxiété. Blanche, musulmane, convertie, porteuse du hijab, autiste, sourde, bipolaire, trouble de stress post-traumatique, maladie dégénérative chronique des articulations, bisexuelle et asexuelle grise. Me demandez pas ce que c'est. Je sais que je suis pas censée rire, parce qu'en vrai c'est horrible, hein, ces gens sont malades, mais c'est quand même hyper bizarre, non ? Bon, ce qui est positif, c'est que de plus en plus de gens osent se faire entendre pour dénoncer cette idéologie quasi-totalitaire qu'est le wokisme. Est-ce que ce sera suffisant ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, pour ceux qui voudraient avoir une idée de comment le wokisme pourrait évoluer dans les prochaines années et qui ne connaissent pas George Orwell, je vous invite à lire 1984 avant qu'il soit censuré à son tour.